J'ai émergé sur le parking d'une station essence du côté d'Orléans. Bien dans le coltard. Ensuquée et baveuse. J'avais du mal à ouvrir les yeux et mes cheveux me paraissaient étonnamment lourds. D'ailleurs, je les ai même tâtés pour voir si c'était vraiment des cheveux. Simon attendait devant les caisses. Karine se repoudrait. Je me suis postée devant une machine à café. J'ai mis au moins 30 secondes avant de réaliser que je pouvais récupérer mon gobelet. Je l'ai bu sans sucre et sans conviction. J'avais dû me tromper de bouton. Un petit goût de tomate, ce cappuccino, non ? Bouh ! La journée allait être bien longue. Nous sommes remontés en voiture sans échanger un mot. Karine a sorti une lingette d'alcool de son vanity pour se désinfecter les mains. Karine se désinfecte toujours les mains quand elle sort d'un lieu public. C'est à cause de l'hygiène. Parce que Karine, elle voit les microbes. Elle voit leurs petites pattes velues et leurs horribles bouches. C'est la raison pour laquelle elle ne prend jamais le métro d'ailleurs. Elle n'aime pas les trains non plus. Elle ne peut pas s'empêcher de penser aux gens qui ont mis leurs pieds sur les fauteuils et collé leurs crottes de nez sous la coudoir. Elle interdit à ses enfants de s'asseoir sur un banc ou de toucher les rampes des escaliers. Elle a du mal à les emmener au square. Elle a du mal à les poser sur un toboggan. Elle a du mal avec les plateaux des McDonald's. Et elle a beaucoup de mal avec les échanges de cartes Pokémon. Elle déguste avec les charcutiers qui ne portent pas de gants et les petites vendeuses qui n'ont pas de pince pour lui servir son croissant. Elle souffre avec les goûters communs de l'école et les sorties de piscine où tous les gamins se donnent la main avant de s'échanger leur mycose. Vivre pour elle est une occupation harassante. Moi, ça me gêne beaucoup, cette histoire de lingette désinfectante. Toujours percevoir l'autre comme un sac de microbes. Toujours regarder ses ongles en lui serrant la main. Toujours se méfier. Toujours se planquer derrière son écharpe. Toujours mettre ses gosses en garde. Touche pas, c'est sale. Ôte tes mains de là, ne partage pas, ne va pas dans la rue. Ne t'assieds pas par terre ou je t'en colle une. Toujours se laver les mains. Toujours se laver la bouche. Toujours pisser en équilibre 10 cm au-dessus de la lunette et embrasser sans y poser les lèvres. Toujours juger les mamans à la couleur des oreilles de leur môme. Toujours, toujours juger. Ça ne sent pas bon du tout ce truc-là. D'ailleurs, dans la famille de Karine, on a vite fait de se déboutonner au milieu du repas et de parler des Arabes. Le père de Karine, il dit les crouilles. Il dit
« Et je paye des impôts pour que les crouilles fassent 10 gamins. »
Il dit
« Je te foutrais ça dans un bateau et je te torpillerais toute cette vermine, moi. »
Il aime bien dire aussi
« La France est un pays d'assistés et de bons à rien. Les Français sont tous des cons !»
Et souvent, il conclut comme ça.
« Moi, je travaille les 6 premiers mois de l'année pour ma famille et les 6 autres pour l'État, alors qu'on vienne pas me parler des pauvres et des chômeurs, hein. Moi, je travaille un jour sur deux pour que Mamadou puisse engrosser ses 10 négresses, alors qu'on ne vienne pas me faire des leçons de morale. »
Je pense à un déjeuner en particulier. Je n'aime pas mon souvenir. C'était le baptême de la petite Alice. Nous étions réunis chez les parents de Karine près du Mans. Son père est gérant d'un casino, les petits pois, pas le terrain de jeu. Et c'est en le voyant au bout de son allée pavée entre son lampadaire en ferronnerie d'art et sa belle Audi que j'ai vraiment compris le sens du mot « fat ». Ce mélange de bêtises et d'arrogance, cet inébranlable contentement de soi-même. Ce cachemire bleu ciel tendu sur son gros ventre et cette façon étrange, si chaleureuse, de vous tendre la main en vous haïssant déjà. J'ai honte en pensant à ce déjeuner. J'ai honte et je ne suis pas la seule. Lola et Vincent ne sont pas fiers non plus, j'imagine. Simon n'était pas là quand la conversation a dégénéré. Il était au fond du jardin et construisait une cabane à son fils. Il doit avoir l'habitude, lui. Il doit savoir qu'il vaut mieux s'éloigner du gros Jaco quand il se débraguette. Simon est comme nous. Il n'aime pas les engueulades de fin de banquet, redoute les conflits et fuit les rapports de force. Il prétend que c'est de l'énergie mal employée et qu'il faut garder ses forces pour des combats plus intéressants. Que les gens comme son beau-père sont des batailles perdues d'avance. Et quand on lui parle de la montée de l'extrême droite, il secoue la tête. Bah, C'est la vase au fond du lac. C'est obligé, c'est humain. N'y touchons pas, ça la fait remonter à la surface. Comment supporte-t-il ses déjeuners familiaux? Comment fait-il pour aider son beau-père à couper sa haie? Il pense aux cabanes de Léo. Il pense au moment où il prendra son petit garçon par la main et s'enfoncera avec lui dans les sous-bois silencieux. J'ai honte, car nous nous sommes écrasés ce jour-là. Nous nous sommes encore écrasés. Nous n'avons pas relevé les propos de cet épicier enragé qui ne verra jamais plus loin que son lointain nombril. Nous ne l'avons pas contredit. Nous ne nous sommes pas levés de table. Nous avons continué de mastiquer lentement chaque bouchée en nous contentant de penser que ce type était un connard et en tirant fort sur toutes les coutures pour tâcher de nous draper encore dans ce qui nous tenait lieu de dignité. Pauvre de nous, si lâches, si lâches. Pourquoi sommes-nous ainsi tous les quatre? Pourquoi les gens qui crient plus fort que les autres nous impressionnent-ils? Pourquoi les gens agressifs nous font-ils perdre nos moyens? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Où s'arrête la bonne éducation et où commence la veulerie? Nous en avons souvent parlé. Nous avons tant battu notre coulpe devant des croûtes de pizza et des cendriers de fortune. Nous n'avons besoin de personne pour nous appuyer sur la nuque. Nous sommes assez grands pour la courber seuls, et quel que soit le nombre de bouteilles vides, nous en arrivons toujours à la même conclusion. Que si nous sommes ainsi, silencieux et déterminés, mais toujours impuissants face aux cons, c'est justement parce que nous n'avons pas la moindre parcelle de confiance en nous. Nous ne nous aimons pas. Pas personnellement, j'entends. Nous ne nous accordons pas tellement d'importance. Pas assez pour postillonner sur le gilet du père Molineau. Pas assez pour croire une seconde que nos cris d'orfraie pourraient infléchir la courbe de ses pensées. Pas assez pour espérer que nos mouvements de dégoût, nos serviettes jetées sur la table et nos chaises renversées puissent changer de quelque manière que ce soit la marche du monde. Qu'aurait-il pensé ce brave contribuable en nous regardant nous agiter ainsi et quitter son logis la tête haute? Il aurait simplement gavé sa femme toute la soirée en répétant « Quel petit con !»« Non mais quel petit con !»« Non mais vraiment, quel petit con !» Pourquoi imposer cela à cette pauvre femme? Qui sommes-nous pour gâcher la fête de 20 personnes? On peut aussi dire que ce n'est pas de la lâcheté. On peut aussi admettre que c'est de la sagesse. Admettre que nous savons prendre du recul, que nous n'aimons pas marcher dans la merde, que nous sommes plus honnêtes que tous ces gens qui moulinent sans cesse et n'irriguent nulle part. Oui, c'est ainsi que nous nous réconfortons, en nous rappelant que nous sommes jeunes et déjà trop lucides, que nous nous tenons à 1000 coudées au-dessus de la fourmilière et que la bêtise ne nous atteint pas tant que ça. Nous nous en moquons. Nous avons autre chose. Nous avons nous. Nous sommes riches autrement. Il suffit de se pencher à l'intérieur. Il y a plein de choses dans notre tête, plein de choses très éloignées de ces borborygmes racistes. Il y a la musique et les écrivains, des chemins, des mains, des tanières, des bouts d'étoiles filantes recopiées sur des reçus de cartes bleues, des pages arrachées, des souvenirs heureux et des souvenirs affreux, des chansons, des refrains sur le bout de nos langues, des messages archivés, des livres massus, des oursons à la guimauve et des disques rayés. Notre enfance, nos solitudes, nos premiers émois et nos projets d'avenir. Toutes ces heures de guet et toutes ces portes tenues. Les flip-flaps de Buster Keaton, la lettre d'Armand Robin à la Gestapo et le bélier des nuages de Michel Léris. La scène où Clint Eastwood se retourne en disant
« Oh, and don't kill yourself, Francesca ».
Et celle où Nicolas Carati soutient ses malades suppliciés au procès de leur bourreau. Les balles du 14 juillet à Villiers, l'odeur des coins dans la cave, nos grands-parents, le sabre de Monsieur Racine, sa cuirasse luisante, nos fantasmes de provinciaux et nos veilles d'examen. L'imperméable de Mamselle Jeanne quand elle monte derrière Gaston sur sa moto. Les passagers du vent de François Bourgeon et les premières lignes du livre d'André Gorce à sa femme que Lola m'a lu hier soir au téléphone alors que nous venions encore de saquer l'amour pendant une plombe. Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Marcello Mastroianni dans les yeux noirs et les robes de Cristobal Balenciaga, l'odeur de poussière et de pain sec des chevaux le soir quand nous descendions du car, les lalanes dans leurs ateliers séparés par un jardin, la nuit où nous avons repeint la rue des Vertus et celle où nous avons glissé une peau de hareng sous la terrasse du restaurant où travaillait cette âne bâtée de poils téfale. Et ce trajet allongé sur des cartons à l'arrière d'une camionnette, pendant que Vincent nous lisait tout l'établi à haute voix. La tête de Simon quand il a entendu Björk pour la première fois de sa vie, et Monteverdi sur le parking du Macumba. Toutes ces bêtises, tous ces remords et nos bulles de savon à l'enterrement du parrain de Lola. Nos amours perdus, nos lettres déchirées et nos amis au téléphone. Ces nuits mémorables, cette manie de toujours tout déménager. Et celui ou celle que nous bousculerons demain en courant après un autobus qui ne nous aura pas attendus. Tout ça et plus encore. Assez pour ne pas s'abîmer l'âme, assez pour ne pas essayer de discuter avec les abrutis. Qu'ils crèvent. Ils crèveront de toute façon. Ils crèveront seuls pendant que nous serons au cinéma. Voilà ce qu'on se dit pour se consoler de n'être pas parti ce jour-là. On se rappelle aussi que tout ça, cette apparente indifférence, cette discrétion, cette faiblesse aussi, c'est la faute de nos parents. De leur faute ou grâce à eux. Parce que ce sont eux qui nous ont appris les livres et la musique. Ce sont eux qui nous ont parlé d'autre chose et qui nous ont forcés à voir autrement, plus haut, plus loin. Mais ce sont eux aussi qui ont oublié de nous donner la confiance. Ils pensaient que ça viendrait tout seul, que nous étions un peu doués pour la vie et que les compliments nous gâcheraient l'ego. Raté, ça n'est jamais venu. Et maintenant nous sommes là. Sublime tocard, silencieux face aux excités avec nos coups d'éclat manqués et notre vague envie de vomir. Trop de crème pâtissière peut-être. Un jour, je me souviens, nous étions en famille sur une plage près d'Osgore. Et c'était assez rare que nous soyons en famille quelque part parce que la famille avec un grand F majuscule, ça n'a jamais été exactement pour nous. Notre papa n'a jamais voulu qu'on l'appelle papa. Et quand les gens s'en étonnaient, nous répondions que c'était à cause de mai 68. Ça nous plaisait bien comme explication, mai 68. C'était comme un code secret, c'était comme si on disait « parce qu'il vient de la planète Zorg ». Notre pop, donc, a dû lever le nez de son livre et il a dit « Les enfants, vous voyez cette plage ?» La Côte d'Argent, vous voyez comme plage ? Eh bien, vous savez ce que vous êtes, vous, dans l'univers ? Oui, des privés de chichi ! Vous êtes ce grain de sable. Juste ce grain-là. Rien de plus. Nous l'avons cru. Tant pis pour nous. Thank you.